Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Chronique, la bataille en faveur du français continue à la veille du 13e sommet de la francophonie. Chers auditeurs, une nouvelle intéressante est tombée récemment, celle de la nomination de Xavier Darcos à la tête de Culture France. On peut espérer qu'il proposera des stratégies plus offensives pour conforter notre politique culturelle. Autre nomination de poids, celle de Jean-Pierre Raffarin, qui est devenu le représentant du président Sarkozy pour la francophonie. Une de ses premières déclarations a été très remarquée. « Ma tâche, je cite, « ma tâche sera plus facile si de temps à autre au FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, à l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce, ou à la BCE, c'est-à-dire la Banque centrale européenne, messieurs Strauss-Kahn, Lamy et Trichet, prononcer un discours en français. » Sur le front de l'évolution du français, les inquiétudes comme les succès sont au rendez-vous. Hélène Carrère-Dancausse, avec la volonté qu'on lui connaît, a signé dans le Figaro, Hélène Carrère-Dancausse, je cite, « Il faut sauver les lycées français de l'étranger » le 8 juillet 2010, un article a signé donc dans le Figaro, un article instructif et alarmant sur le danger qui guette l'existence et le développement des lycées français de l'étranger. Rappelons que la France possède un réseau de 430 établissements répartis dans 130 pays, lesquels accueillent environ 250 élèves. En 2005, 47% des élèves étaient français. Ces lycées, jusqu'alors payants, c'est-à-dire jusqu'en 2005, sont devenus gratuits en 2007. Cette décision au départ généreuse se retourne finalement contre elle, car les entreprises qui finançaient les études s'en déchargent désormais sur l'État, c'est-à-dire sur le contribuable. Si bien que lorsque le fardeau deviendra trop lourd pour l'État, il risque d'être tenté de fermer certains lycées. Tout aussi grave, le niveau des études risque de se dégrader à cause des élèves français qui, profitant de l'effet de la gratuité, n'auront pas suivi tout le cursus et une formation adéquate. Ainsi que le souligne avec justesse le secrétaire perpétuel, comme les étrangers sont à présent les seuls à payer les frais scolaires, cela risque d'entraîner une diminution de leur nombre, si bien que ces lycées qui, jusqu'à présent, unissaient la France au reste du monde, pourraient ne plus jouer leur rôle, et ce au détriment, précisons-le, de l'influence française. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à réagir devant cette forte inquiétude. Deux exemples où cette situation inquiétante. Deux exemples illustrent notre propos. Depuis 3 ans, au Maroc, le nombre d'élèves français a augmenté de 10%, tandis que celui des Marocains a diminué de 4,5%. Or, les cadres formés en français à la française sont, comme le rappelle encore le secrétaire perpétuel, des partenaires indispensables à notre présence sur les marchés extérieurs. Prenons ensuite l'exemple de l'Égypte, où il existe à Alexandrie, depuis le début du XXIe siècle, une université française déjà réputée. Si nos lycées périclitent en accueillant de moins en moins de jeunes Égyptiens, ceux-ci se tourneront vers nos concurrents et peu à peu, l'Égypte de demain deviendra de moins en moins francophile, perspective, disons-le, carrément inacceptable, doublement inacceptable. Tout à l'heure, j'y reviendrai et je vous donnerai une bonne nouvelle. Il serait plus que temps de revoir au plus haut niveau de l'État ce dossier complexe qui nuira au rayonnement de notre pays en détournant de nombreux jeunes de notre enseignement pourtant très apprécié. La demande est en effet presque toujours plus forte que l'offre. N'oublions pas cette formule de Victor Hugo, citée par notre ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, je cite « Servir la patrie est la moitié du devoir, servir l'humanité l'autre moitié ». Appliquons donc à la lettre cette phrase si juste qui symbolise à la perfection le rôle exceptionnel des lycées français de l'étranger. La France a toutes les possibilités d'augmenter son rayonnement dans le monde pour le profit du plus grand nombre, à condition que les outils soient réalistes, adaptés et performants. Ce combat pour l'excellence a bien lieu en ce moment en France même, où justement d'aucuns s'inquiètent pour l'avenir de notre langue et des langues anciennes dont on sait que la connaissance favorise la maîtrise du français. En août dernier, le jury du CAPES de lettres classiques a décidé de démissionner. Phénomène rare, pour dénoncer un concours devenu moins exigeant il concerne tout de même 500 000 élèves choisis parmi les plus brillants. Toujours en France, d'aucuns souhaitent également débarrasser le français du règne du jargon. Trop de termes techniques abscons éloignent les jeunes des œuvres littéraires. Il est dommageable d'avoir donné la possibilité d'élaisser la dissertation française au bac. À peine plus de 10% des candidats la choisissent. Il suffirait de l'adapter quelque peu pour qu'elle redevienne un instrument au service de l'esprit critique. Nul doute que les réponses aux nombreuses attentes des uns comme des autres, ainsi que le désir de renouveau et de bien faire, existent fortement. De nombreux professeurs, je pense à un article signé par Cécilia Susoni et Hubert Aupetit, tous deux professeurs dans des lycées très connus de Paris, et qui ont écrit un article dans le Figaro des 7 et 8 août 2010 qui s'intitule « Il faut repenser l'enseignement du français ». De nombreux professeurs donc confient qu'il faut repenser l'enseignement du français en revenant aux fondamentaux, c'est-à-dire aux bases qui ont permis à la France de se constituer en nation à partir du XVIe siècle. Pour eux, le français doit rester un art de vivre, de sentir et de penser. Ces professeurs ont raison de s'insurger lorsqu'ils déclarent, je cite, « Il n'y a qu'en France que les études littéraires ne mènent à rien, et cela parce qu'on ne cesse de les réduire ». Enfin, c'est une façon de parler, car nombreux sont les littéraires qui ont réussi à occuper des places importantes, j'en connais beaucoup. N'est-ce pas une grave erreur que d'avoir parfois amputé le cœur vivant du corpus littéraire ? Certes, pour que nos jeunes apprécient nos œuvres les plus rayonnantes, il est essentiel de cultiver les mille et une richesses de notre langue, sans oublier celles des autres, et fuir l'univers exclusif de la technologie globale. Une heure d'ordinateur doit être impérativement accompagnée d'une heure de lecture. Si certains considèrent que le climat linguistique est morose et veulent avec raison l'améliorer, pour d'autres, les expériences que le français leur procure sont positives, voire inoubliables. À l'école normale supérieure, au lieu du savoir, de nombreux étrangers découvrent l'excellence de nos méthodes. Derrière le formalisme à la française, s'épanouit avec vivacité l'esprit critique, plus qu'en Amérique, disent certains. À l'ENS, donc l'École normale supérieure, ces étudiants venus d'ailleurs cherchent avec passion l'être français. Étudier en France, la philosophie des sciences par exemple, est un cours impensable aux États-Unis, souligne un élève. Les modèles éducatifs qui marchent dans l'Hexagone sont plus nombreux qu'on ne le croit, comme en témoigne l'école alsacienne, qui avec le collège Stanislas est l'un des établissements privés de la capitale parmi les plus innovants. Les secrets d'un tel succès repose sur la qualité d'un projet pédagogique qui a pour but principal de produire un type d'homme cultivé qui allie aux vertus de l'âme régionale les qualités générales de l'humanisme. Un beau programme. À l'école alsacienne, l'enfant est au centre du système scolaire. On veut développer en lui l'esprit de responsabilisation. Pour mieux répondre à cette vaste interrogation sur l'enseignement, sur les méthodes pédagogiques et sur les meilleurs outils qu'il faut offrir aux jeunes, il serait judicieux d'écouter le pédagogue Odon Vallée, lequel, grâce à sa fondation, dotée tout de même de 130 millions d'euros, a déjà offert en 10 ans 22 000 bourses à 8 000 jeunes. Ces bourses, il les donne à des élèves méritants des écoles d'art parisiennes ainsi qu'à des étudiants vietnamiens et béninois. Pourquoi le Bénin ? Parce que, répond Odon Vallée, je cite, c'est un des rares pays d'Afrique francophone démocratique. Et le Vietnam, en raison des bons résultats scolaires dans ce pays qui pratique le culte du diplôme. Odon Vallée aime rappeler ce que disait Freud, je cite, pour être heureux, il faut deux qualités, aimer et travailler. Grâce à des idées généreuses, les initiatives en faveur de notre langue existent bel et bien. Du côté des très bonnes nouvelles, l'État français vient de faire un don extraordinaire, j'annonçais cette nouvelle tout à l'heure, qui ne peut que soutenir l'apprentissage de notre langue en offrant 500 000 ouvrages à la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte, c'est-à-dire l'ensemble des collections entrées par dépôt légal entre 1996 et 2006 au sein de la Bibliothèque nationale de France. On imagine la joie de M. Ismaël Serageldin, le directeur de la Bibliothèque Alexandria, et le bonheur des francophiles de ce pays dont l'héritage est unique au monde. On ne sait pas toujours que la France, malgré les difficultés liées à la crise actuelle, elle est dure, accueille à ses frais 35 000 étudiants chinois. Certains se demandent, comme Yvon Velot, le représentant des arts et métiers Paris Tech en Asie, si notre pays a les moyens de continuer à recevoir gracieusement autant d'étudiants étrangers, surtout s'ils appartiennent à des familles aisées. il serait, pense-t-il, habile de repenser notre système d'accueil avec générosité, élégance, rigueur et justice, bien sûr. Curieux du vaste monde, disciple très moderne de Paul Morand, de jeunes Français, nos ambassadeurs, découvrent les visages de notre planète, jusqu'en Australie. En 2009, 16 250 jeunes Français y sont partis le sac au dos. La même année, 554 d'entre eux ont réussi à obtenir un visa d'immigration qualifié, trois fois plus qu'en l'an 2000. Il faut apprécier l'expérience vécue à l'étranger. Connaître l'autre est un passeport pour la vie. Il l'est aussi pour ces Français qui se rendent au Japon, très vite fascinés par cette culture. C'est après avoir conquis l'Élysée que Jacques Chirac s'autorisa à dévoiler son intérêt pour cette civilisation si complexe au pays du soleil levant, ce qui nous éblouit. Comme Paul Claudel l'a été en son temps, c'est le sens de l'ordre et la recherche de la perfection. Autre voyage instructif au cœur de l'été 2010, une quinzaine d'écrivains, dont Jean Echenoz et Daniel Salnave, ont été invités à traverser la steppe sibérienne où ils ont pu constater lors de chaque étape l'existence d'une francophilie oubliée. La langue française est encore très présente en Russie. De notre côté, nous ferions bien de nous intéresser plus attentivement aux richesses multiples de la culture russe. Continuons ce bref tour d'horizon en nous posant un instant aux États-Unis où s'est tenu cet été le premier festival littéraire franco-américain de Los Angeles et San Francisco. 5 écrivains et pas des moindres y ont eu la vedette. Philippe Djian, le franco-congolais Alain Magbankou, Jean Rollin, Véronique Ovaldé et le romancier algérien Boualem Sansal. Résultat de ces rencontres, avec un public varié, une percée sur un marché réputé imprenable, rappelons avec regret que l'Amérique dont on rêve, terre du mélange des cultures, pourrait être davantage tournée vers le dialogue des cultures. Pour preuve, entre 1997 et 2003, les éditeurs parisiens ont publié 37 000 œuvres d'auteurs anglo-saxons, c'est-à-dire une moyenne de 5 285 œuvres par an. Durant la même période, leurs homologues new-yorkais ont traduit 640 titres du français, c'est-à-dire en moyenne 81 œuvres par an. Ces statistiques assez honteuses ont de quoi faire pâlir tous les amoureux du donner et du recevoir. Autre nouvelle, elle aussi honteuse, en provenance de ce pays ami, c'est-à-dire les États-Unis, celle que vient de prendre l'administration de l'université américaine de Sunny-Albany, qui accueille 15 000 étudiants, qui a brutalement décidé, sans consulter les 12 professeurs chargés de ces matières, d'abolir l'ensemble du programme de français, de la licence au doctorat, ainsi que les programmes d'italien et de russe. Seul l'espagnol subsiste. J'ose dire qu'une telle décision a dû être prise par des fonctionnaires qui ignorent la place du français dans le monde. Le français est en effet langue officielle dans 30 pays contre 22 pour l'espagnol. Vous pouvez parfaitement envoyer un message de soutien au professeur Jean-François Brière. Je vous donne son courriel. J.F. Brière, B comme Bertrand, R.I.E.R.E. @albany, A.L.B. comme Bertrand, A.N.Y. .edu, E.D.U. E.D. comme Durand, U comme Ursule. De son côté, précisons que la FAVA, une association dynamique, a permis à 70 jeunes Américains de venir du 4 juillet au 18 août en Dordogne afin de donner des récitals de mélodies françaises, des concerts de musique sacrée et des spectacles d'opérette. La FAVA est affiliée à l'Université du Texas, la plus grande université des États-Unis. Vous voyez, rien n'est perdu. Frédéric Haddad, professeur d'art lyrique français à l'Université d'Austin au Texas, et William Lewis, directeur du département lyrique de cette même université, préside cette association dont le but est de découvrir, former et inspirer les talents vocaux les plus prometteurs. Ils ont le mérite d'avoir créé un pont nécessaire entre nos deux cultures qui s'ignorent trop. Et pendant ce temps-là, l'administration de Sunny-Albany rompt des liens essentiels au dialogue des cultures. Je vous donne les coordonnées de la FAVA, c'est-à-dire la Franco-American Vocal Academy. Les coordonnées de la FAVA sont les suivantes. FAVA, opéra, comme opéra, sans accent bien sûr, F-A-V-A-O-P-E-R-A, @G comme Georges, mail, mail.com. Autre grande information à signaler dans cette chronique, celle bien sûr de la tenue en Suisse, dans la ville de Montreux, du 22 au 24 octobre 2010, du 13e sommet de la francophonie. Durant ces 3 jours, 70 chefs d'État et de gouvernement se réuniront pour consolider la place de la francophonie sur la scène internationale dans cette belle cité suisse. Les représentants de nombreux États pourront, entre autres, évoquer des thèmes d'actualité comme la francophonie et la mondialisation et de nombreux autres projets nécessaires pour conforter l'avenir des parlants français. Et juste avant le sommet, le prix des 5 continents 2010 sera remis à Liliana Lazar le 22 octobre par l'Organisation internationale de la francophonie au château de Chillon. Précisons aussi que, en ce qui concerne les prix, que la 25e remise des prix Allen dans la salle des positions, 200 places, la première rencontre des arts et lettres en Bourbonnais a eu lieu en 1985. Allen, mot historique du duc Louis II de Bourbon, signifie « ensemble » et à cette occasion, le Grand Prix de la francophonie sera remis à 14 récipiendaires, dont M. Abba Touré, le premier prix. Ils seront accueillis par M. Jean Cluzel de l'Institut. Moment festif autour des lauréats. Autant dire que depuis le 15 septembre, les colloques, les débats et les rencontres se sont multipliés en Suisse pour préparer les francophones et leurs amis à ce sommet placé sous le signe du dialogue des cultures, du donner et du recevoir. Du 22 au 24 octobre, c'est toute la Suisse, en sa diversité rayonnante, qui recevra la francophonie mondiale, ce dont il faut se réjouir. Il m'est agréable de vous signaler aussi la tenue d'un colloque titré « Intelligence culturelle et francophonie, outil de puissance ». Il se tiendra le jeudi 28 octobre de 18h à 20h30 à l'auditorium de l'Hôtel de Ville, 5 rue Lobo, 75 004, donc dans le 4e à Paris. C'est à l'Hôtel de Ville. Une dizaine de conférenciers connus présenteront l'état des lieux de la francophonie et ses stratégies d'influence. Inscription obligatoire sur www.ifie.net. Et vous pouvez aussi téléphoner à celle qui s'occupe de ce colloque, Barbara Carole, et son numéro est à Paris au 01 55 34 35 99. Je répète, 01 55 34 35 99. Le mot de la fin de cette chronique en faveur du français et du dialogue des cultures, nous le laisserons à Marc Fumaroli de l'Académie française, qui dans un article solidement charpenté, « Quand l'Europe parlera globiche », publié dans le Figaro les 18 et 19 septembre 2010, fait le pari que la propagation de cet idiome inspiré de l'anglais n'entraînera d'aucune façon la mort des langues nationales. Et le brillant académicien d'ajouter, je cite, « Les diverses institutions normatives dont le français s'est pourvu ne perdent jamais de vue, soutenues par l'amour des francophones écrivains ou non, pour leur commun idiome, sa vocation ancienne plus que jamais précieuse et rare sur le marché global d'une langue de conversation civile et hospitalière entre non-affairistes et non-spécialistes. C'est enfin en ces termes qu'il clôt le débat pour l'instant, je cite, « On souhaiterait avec nos linguistes Alain Ré, Claude Agege, Alain Bentolila et tous nos amis francophones que les autres langues européennes, sans excepter l'anglais d'Oxford ou de la BBC d'hier, épouse cette exigence et partage le souci de civilisation à l'européenne qu'elle suppose. Chers auditeurs, c'est sur une note réaliste et optimiste que je vous quitte aujourd'hui avant de revenir évoquer pour vous, la prochaine fois, quelques livres qui ont récemment attiré mon attention. Je vous remercie et je vous souhaite bon vent.